Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel. Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Merci à tous ceux qui soutiennent l'activité du projet sur Tipeee. Ce soir, direction Paris, en 1793, j'ai rendez-vous avec Olympe de Gouges pour parler de féminité, de galanterie et du harcèlement sexuel au travail. Bonne écoute. Olympe de Gouges, bonjour.
Bonjour.
Olympe, on a parlé il y a quelque temps d'esprit révolutionnaire, des gilets jaunes et de politique d'une manière générale. Vous prenez ardemment la conciliation et la paix entre les hommes. Votre discours, plein de bienveillance, de sensibilité, d'amour. Je dois reconnaître qu'il m'a rendu curieux de dialoguer avec vous à propos du féminisme. L'idée d'une égalité intellectuelle entre l'homme et la femme est bien antérieure à la Révolution. Avant vous, des voix isolées revendiquaient déjà pour la femme le droit au développement libre et l'emploi d'une main politique de toutes ses facultés cérébrales. Mais ce féminisme restait plutôt aristocratique. On ne pouvait l'imaginer qu'appliqué à une élite sociale, aux grandes dames, aux bourgeoises de la plus haute bourgeoisie. Pourtant, les racines du mouvement féministe français actuel se trouvent bel et bien à la Révolution française. Le jour où l'on proclama les droits universels de l'homme, se lève en même temps sur le monde une grande espérance de l'émancipation de l'homme et, naturellement, paraît en parallèle celle de l'émancipation de la femme. Olympe, vous êtes une grande femme, une femme de lettres, impliquée en politique, contemporaine à la Révolution française. On va parler justement de la cause des femmes, la lutte des sexes, vous qui évoluez dans un monde d'hommes. Je voudrais qu'on a...
Une grande femme. Je trouve assez ironique que vous m'appeliez une grande femme, moi qui me suis donné tant de mal à devenir un grand homme en mon temps. Et ma vie, je puis vous la résumer assez brièvement. Je suis née malheureuse. J'ai vécu persécutée des hommes et du destin. Mais il faut croire d'une certaine manière que le ciel m'inspire.
Olympe, cette fois-ci je viens en ayant lu toutes vos œuvres, presque en totalité. On est d'accord que tous vos écrits, ce sont des autobiographies, à peine déguisées même parfois. Parmi la multitude de reproches qu'on vous adresse, on dit que vous avez souvent romancé votre histoire familiale. Vous vous accommodez de la réalité, vous mentez aussi sur votre âge, enfin des choses comme ça.
Me reproche-t-on de romancer une histoire familiale marquée par l'abandon et le fanatisme de la fortune? Ou bien de m'être arrangée de mon âge pour les besoins de la politique? J'aime l'idée de la vie romancée, voyez-vous, pour l'amour de la poésie. Et il s'avère que cela m'a toujours servi. Comment aurais-je pu réussir autrement dans un pays où la vertu est une chimère et où l'on n'obtient rien sans intrigue ni bassesse? Je suis fille naturelle, née Marie Gouze. Ma mère se maria en 1737 avec Pierre Gouze, un boucher réputé. Mais... tout Montauban sait que mon véritable père est ce poète célèbre, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. De l'exemple du mariage de ma mère et de son infidélité romanesque, j'aurai ensuite ma propre expérience du mariage. Le 24 octobre 1765, à l'âge de 17 ans, l'on me maria de force à un homme que je n'aimais point et qui n'était ni riche ni bien né. Je fus sacrifiée sans aucune raison qui pourrait balancer la répugnance que j'avais pour cet homme grossier et inculte. Yves Aubry. Il était l'officier de bouche de Messire de Gourges. Autrement dit, il était son cuisinier. Et personne ne sembla offusqué, à part moi, qu'il fût de 30 ans mon aîné. Quelques mois plus tard, je donnai naissance à mon fils Pierre, alors que la crue du Tarn emportait son imbécile de géniteur.
Marie Gouze ? Et en vous mariant, vous auriez dû devenir Marie Aubry. Pourquoi ce nom de guerre Olympe de Gouges alors? Comment on passe de Marie Gouze, fille de boucher, à la célèbre Olympe de Gouges?
Olympe est le prénom de ma mère. Anne Olympe Mouissé. C'est un prénom que je trouve céleste. et il m'inspire véritablement. Et De Gouges, ne trouvez-vous pas que ce nom sonne comme le tocsin d'une ère nouvelle ? La particule n'est pas sans importance. Après la mort de mon mari, je pars rejoindre ma sœur Jeanne à Paris. Ce nouveau nom me permet d'intégrer les clubs littéraires les plus réputés de Paris. Entre-temps, je séduis un riche marchand de Toulouse qui me donne beaucoup de sa fortune, puis un autre et un autre. J'hérite de beaucoup d'argent.
Vous vous êtes remariée par la suite ?
Ciel, non ! L'expérience de ce premier mariage m'aura suffi pour la vie. Bien sûr, ce n'est pas l'amour que je rejette. Je pense même avoir fait quelques conquêtes. Mais je déclare qu'aucun homme n'aura fait la mienne. Je ne vois pas qu'il y ait d'homme digne de moi. Il y a bien cet homme, cependant. Jacques Biétrix de Rosières, un haut fonctionnaire de la marine qui me proposa de l'épouser en plusieurs occasions. Et en plusieurs occasions, je refusai. Mais notre liaison a perduré malgré tout. Il y a d'abord que pour moi, ce contrat de mariage n'est qu'un tombeau de la confiance et de l'amour. Et dans ma carrière d'écrivain, il faudrait que j'obtienne continuellement la permission de mon mari pour pouvoir publier mes écrits. J'aime mieux garder cette liberté de publier à mon gré. Mais j'ai proposé par les suites un contrat social de l'homme et de la femme, dont il me semble qu'il serait plus fidèle à ma vision de l'union et du partage.
Oui, j'ai vu ça dans votre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Honnêtement, s'il n'y a qu'une chose à lire de vous, je crois que c'est ça. Et concernant ce contrat social, je crois qu'il préfigure un peu le Pax à mon époque, c'est intéressant. Vous devenez courtisane alors, si je comprends bien. C'est un choix de carrière assez particulier quand même.
Ne jugez pas la fille que j'étais. Privée de l'affection et du nom d'un père célèbre et érudit, tout comme de sa fortune, j'ai la fierté qui convient à mon sort. Je suis d'une province où des lois injustes et inhumaines privent les enfants cadets du partage égal que la nature donne aux enfants nés du même père et de la même mère. Et ensuite, mariée de force, j'ai subi l'emprisonnement de la pensée d'une jeune femme avide d'espace auprès d'un mari lourd, véritable geôlier spirituel. J'ai été forcée à fuir un mari qui m'était odieux. Avant cela, ma mère m'a refusée à un homme de qualité et dès lors, il est vrai que je me sentais au-dessus de mon état. Alors oui, n'ayant pas de fortune, j'ai entrepris de m'en procurer une par une noble émulation. Je prétends à l'émulation honorable des hommes de mérite qui joignent beaucoup de gloire à une honnête aisance.
Je juge pas du tout la jeune femme que vous étiez ni les choix de vie que vous avez faits. À vrai dire, je suis même pro-sexe, c'est-à-dire que je considère la sexualité comme un enjeu essentiel du combat pour l'égalité entre les genres et pour les droits des femmes. Pour les féministes pro-sexe, la sexualité, comme la société, est organisée autour de stéréotypes de genre qu'il convient de déconstruire pour accéder à une véritable libération sexuelle. Soulever les tabous, mettre à mal les préjugés, abroger les discriminations, conduirait ainsi les femmes à se réapproprier leur corps et à assumer librement leurs différents désirs et leurs pratiques sexuelles, sans être jugées.
J'assume entièrement mes passions amoureuses et l'attrait du renom à cette époque. Mais je ne me suis jamais sentie pour autant créature de proie, dont la seule volonté aurait été de s'enrichir. Mais c'eût été pure folie que de l'exposer sans fard. Malheureusement, le génie, les vertus héroïques, la probité sans tache sont des dons que la nature joint rarement au charme que l'on porte dans la société. Alors, sitôt arrivée à Paris, je perfectionne mes dons intellectuels par l'usage du monde et devenue galante, je fréquente les auteurs les plus recommandables du siècle. Palissot, Mercier, Lemière, Beaumarchais.
Pour séduire ces hommes, vous devez vous apprêter, vous pomponner et soigner votre féminité. Vous savez, la coquetterie a toujours eu partie liée avec ce jeu du montrer caché, variation de l'avancée reculée, qui constitue le mouvement même de l'érotisme. On dissimule une chevelure, un sein ou tout autre attribut féminin, qui le rend d'autant plus désirable qu'il excite l'imagination et les sens, mettant ainsi l'esprit et le corps en mouvement. Vous croyez qu'on peut être très féminine et féministe en même temps ?
Eh bien, tant que la toilette ne gêne pas la circulation du sang et n'obstrue pas les idées, elle ne présente aucun danger. mais la mienne, je ne sais si elle n'est pas tout de même un peu exagérée. À cette époque, je faisais à la journée des toilettes éternelles pour m'embellir. Je ne refusais aucun accessoire ni attribut qui semblerait accorder plus de saillie d'un côté ou affecter une plus humble forme de l'autre. Vous savez, finalement, je ne cherchais pas vraiment à séduire mes juges. Je pense que je ne voulais que les convaincre. Mais c'est ainsi. Je crois que le physique ajoute beaucoup au talent et aux vertus.
Vous vouliez plaire alors, c'est un peu différent de séduire, effectivement. En discutant avec Montaigne, je me souviens qu'il m'a dit à propos de la beauté
« C'est une partie qui se recommande fortement dans le commerce des hommes. Elle est le premier moyen de conciliation des uns aux autres, et il n'est point d'homme si barbare qui ne se sente point frappé par sa douceur. Le corps a une grande part dans notre être, et il y tient un rang important. Ceux qui veulent dissocier les deux parties principales de notre être et les séquestrer l'une de l'autre, ils ont tort. »
Je crois que c'est complètement vrai et que ça rejoint notre échange. Vous-même, vous soignez votre beauté pour vous insérer dans les cercles restreints du beau monde parisien et vous faire une place dans le milieu du théâtre. En fait, la beauté est même assez déterminante dans les rapports humains. On remarque que les mêmes zones du cerveau, celles de la récompense et du plaisir, s'activent devant les photographies de beaux visages. On nous vend aussi l'idée qu'une personne belle est nécessairement une belle personne, ce qui induit qu'elle est forcément heureuse, épanouie, talentueuse et parée de toutes les vertus. On a tous tendance à agir dans le sens de ces stéréotypes et à nous comporter de manière bienveillante avec les personnes au physique attrayant. On veut nous-mêmes leur plaire et nous attirer leur sympathie. C'est ce qui explique en grande partie la réussite des gens beaux. L'économiste américain Daniel Hammermesh mène des études sur la beauté en entreprise. Il prouve que les personnes qu'on juge belles réussissent mieux et gagnent plus d'argent. En fait, souvenez-vous, à la cour d'école, les gens beaux étaient populaires et appréciés, et les moins aidés de la nature étaient plutôt isolés. Eh bien, c'est la même chose à l'âge adulte.
Je ne saurais dire. Je n'ai jamais été à l'école. Ignorez-vous que les femmes de mon époque n'apprennent ni la lecture ni l'écriture ? Paraît-il que les études sont dangereuses pour les femmes, car notre cerveau n'est pas fait pour cela. Et si on le permet, l'éducation des filles doit être toujours relative aux hommes. On apprend à leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux. Il faut les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce en somme. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès l'enfance. Moi, je n'ai rien appris de tout cela et j'ai appris à voir mon ignorance comme une bénédiction. Elle me fait voir les choses de la sottise humaine différemment, d'après mes simples connaissances et la nature de qui je tiens tout. Mais cela ne m'empêche pas de m'exprimer et de donner mes bonnes idées. Je veux, moi, ignorante, pouvoir m'égarer comme les autres.
Mais attendez, vous ne savez ni lire ni écrire ? Comment vous avez pu devenir femme de lettres et écrivain patriote alors ?
Eh bien... on me lit les ouvrages les plus fameux des siècles passés, je discute dans les salons avec des esprits brillants et je m'instruis de tout ce que peut recevoir mon cerveau inadapté. Et pour l'écriture de mes pièces, eh bien je les dicte. Tout ce qu'il me faut, c'est une secrétaire capable d'écrire aussi vite que le débit de ma parole. Ma chance, s'il en est une, est peut-être d'avoir reçu une éducation qui m'a permis de m'adapter aux usages de l'élite parisienne. Ainsi, j'ai pu m'essayer à l'écriture et perfectionner mes talents. La galanterie est certes un moyen pour les femmes d'améliorer leurs conditions. Mais à quelle femme de lettres ayant débuté comme moi par la galanterie permet-on ensuite la franchise ? Les merveilleux de la cour prétendent qu'il valait mieux que je fasse l'amour que des livres. J'aurais pu les en croire s'ils avaient été en état de m'en persuader. Mais malheureusement pour eux, je n'aime que les vertus.
Vous êtes stigmatisée ? Je veux dire, même en ayant réussi à vous hisser parmi les intellectuels les plus renommés de la comédie française ?
Mais, mon cher, je suis née malheureuse et j'ai vécu toute ma vie persécutée. C'est une misère du métier d'auteur pour la femme de résider dans la curiosité et la cruauté de l'opinion, au nom d'une morale qu'on pourrait baptiser de « morale des sexes » et qui n'existe pas pour les hommes. Mais heureusement pour moi, le miroir est plus vrai que toutes ces accusations. il faut voir que les femmes, étant éduquées à devenir de futures bonnes épouses, on leur apprend non seulement la souffrance, mais aussi la soumission. Certaines cultivent des vertus en plein vent. Elles resteront toujours naïves, sans apprêt, et refuseront toujours tous les assauts. Et d'autres, pour s'en défaire, entretiennent les vertus du charlatanisme. La différence qui existe entre ces prudes et les femmes franchement galantes, je crois que c'est la même qu'on remarque entre l'artiste et l'amateur. Entre les deux, il y a un comportement qui me semble être le bon, celui dans lequel on ne craint pas d'oser et dans lequel on ne se soucie que peu du jugement des autres.
Si on devait la définir, la féminité, on pourrait dire que c'est cet ensemble de caractéristiques qui permettent le glissement vers le concept de genre. Ce sont ces codes et ces conventions culturelles qui déterminent d'abord la différence entre les hommes et les femmes, et puis entre les femmes entre elles. Vous faites vous-même la différence apparemment. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs les vertus du charlatanisme ? Ne me dites pas que vous faites du slut-shaming.
Les femmes sont d'étranges animaux. Elles n'ont d'autre consistance dans la société que l'art d'intriguer et de séduire les hommes. Et les hommes, quel que soit leur farouche caractère, leur prétendue supériorité, ils sont toujours apprivoisés par ces animaux. Nul ne peut échapper à leurs atteintes. Tout en général possède l'art de séduire, et par une bizarrerie attachée aux faiblesses des hommes, les plus perfides sont les plus intéressantes à leurs yeux. Les ministres ne sont pas exempts de faiblesses et de séductions. S'il était possible que les ministres fassent un aveu sincère, tous conviendraient que ce sont les femmes qui corrompent les hommes en place.
Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ?
La révolution n'est rien d'autre au départ qu'un grand drame sexuel. J'ai des faits vers moi que les ministres de la révolution n'ont perdu de vue leur devoir, peut-être sans le vouloir, que par les insinuations des comtesses et des marquises. Ah, ça ! Il faut en convenir. Elles sont très aimables quand elles veulent. Il n'y a donc aucun ressort que la noblesse n'ait employé pour corrompre des ministres. Un ex-marquis, père de deux jolies filles, disait « Je les mettrai moi-même dans le lit des ministres pour accélérer le moment de la contre-révolution. »
C'est abject comme commentaire.
C'est ainsi que la noblesse se distingue en procédé noble. Mais j'en conviens, il est temps de faire une opération hardie et de couper jusqu'au vif pour déraciner le vice.
Allez-y, je vous écoute. Quelle opération ? Comment on déracine le vice ?
Eh bien, dans un crime de lèse-nation, de lèse-majesté, dans un vol, dans un assassinat, on punit les complices des deux sexes. Pourquoi ne punirait-on pas les femmes qui se rendraient coupables en se mêlant nocturnement des affaires de l'État et du secret du cabinet ? Pourquoi ces femmes, dis-je, ne seraient-elles pas mises en cause avec les ministres lorsqu'elles surprennent la religion des hommes en place et abusent inconstitutionnellement de leur faiblesse ?
Vous pensez que les comtesses et les marquises sont de si grandes manipulatrices ? Après tout, j'en sais rien, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, mais... Ce qui me dérange dans votre observation, c'est que vous accusez les femmes, alors qu'à l'instant, vous disiez que la galanterie ou la séduction, c'était quasiment les seules armes données aux femmes pour survivre, les seuls moyens pour elles de s'émanciper. Et pire encore, vous faites de ces ministres, de ces hommes, les victimes d'un système qui, à la base, leur est entièrement profitable. Qui est le véritable persécuteur dans cet exemple ? Qui est la véritable victime ?
Écoutez, peu m'importe. Moi, je sers mon sexe en le persécutant. Je l'honore en le dépouillant de toutes ses honteuses menées et en faisant tomber le bandeau que l'ambition sans doute a placé sur les yeux des femmes. Je les rends plus intéressantes aux yeux des hommes. L'amour ne les embellira pas moins. Ces moyens propres à épurer la place de ministre restaureront en même temps les mœurs pour une meilleure égalité entre les sexes. Bien sûr, je ne prétends pas faire des ministres des saints, les accepter du sentiment le plus louable. Mais la société est si loin encore de ces inclinations qui font le bonheur de la vie. Certes, peut-être en vain cherche-t-on la source du mal et la guérison. Il ne convenait peut-être qu'à une femme d'en désigner le germe et de donner l'application du remède. Mais oui, je les accuse de corrompre les ministres de la Révolution et je réclame qu'on punisse ces comtesses et ces marquises.
Marquis, dis-moi, la connais-tu ? Marquis, dis-moi, la connais-tu ? Qui est cette jolie dame ? Et le marquis a répondu : Sire roi, c'est ma femme.
Je sais pas, Olympe, ça me laisse perplexe. Bien sûr que certaines femmes peuvent desservir la cause de leur sexe, mais même pour ces comtesses ou ces marquises, il y a quelque chose de systémique et profondément ancré, bancal dans le fonctionnement de la société au départ. On apprend aux femmes qu'elles doivent plaire aux hommes, elles doivent être coquettes, ni trop, ni pas assez. En matière d'éducation, vous disiez qu'elles doivent élever les hommes jeunes, les soigner quand ils sont grands, les conseiller, les consoler. Autrement dit, elles doivent s'en occuper tout le temps et à tout âge. Mais là encore, elles doivent être bavardes juste ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que les femmes soient justement vertueuses ? Qu'elles soient invisibles, muettes ? Dans votre exemple des femmes qui se mêlent nocturnement des affaires de l'État, c'est quand même un peu fou, presque risible qu'une simple parole sur l'oreiller puisse ébranler l'édifice de la toute-puissance masculine. Est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté individuelle pour ces femmes sans penser le système d'oppression religieux, ethnique, social, intellectuel, dans son ensemble ?
Jusque-là, les femmes ont fait plus de mal que de bien dans la société. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Beaucoup en tiraient une certaine jouissance, ne l'ignoraient pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassades, commandements, ministères, présidences, pontificats, enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes profanes et sacrés, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté. Et depuis la Révolution, respectable et méprisé. Le juste milieu, c'est de savoir se ressentir de la retenue, de la honte et de la délicatesse, non pour autrui, mais pour soi-même. C'est savoir se placer encore entre l'impudent et le pudibond, qui s'effarouche de tout. Dieu a envoyé aux hommes la pudeur et la justice. La justice a besoin de pudeur. Ne pas en faire trop revient à ériger un rempart ou n'importe quoi et à la tyrannie.
Je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Pourquoi est-ce si grave pour une femme de déroger à la pudeur ? Et ce juste milieu, quel est-il exactement ? Qui décide de ce qui relève de la pudeur ou de la prostitution ? Tenez-vous, vous revendiquez votre liberté sexuelle en tant que courtisane. Votre droit à la féminité en vous maquillant de manière ostentatoire. Et pourtant, certains hommes ou certaines femmes vont vous mettre dans la case prostituée parce que vous dérogez à leurs mœurs pudibondes. En fait, à mon époque, il y a de nouvelles stratégies féministes qui permettent d'expliquer ça, notamment le pop-féminisme, qui est un mélange entre la culture populaire et le partage d'idées féministes. Des actrices, des chanteuses, des égéries, des prostituées, on admet qu'elles s'inscrivent dans un mouvement de réappropriation de leur corps. Elles en disposent comme elles l'entendent et elles s'appliquent justement à repousser ces normes biaisées de ce qui fait la pudeur en société. Il y a peu, j'ai vu un très bon documentaire Arte sur le pop-féminisme. Il prétend aussi que les courtisanes de votre époque ou des siècles antérieurs incarnent en quelque sorte un féminisme d'avant-garde, parce que ces femmes sont les seules à pouvoir disposer d'un compte en banque par exemple. Je vais peut-être m'avancer un peu, mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. Bon, déjà, il y a à première vue comme un paradoxe. Choisir la galanterie ou la prostitution pour en faire l'étendard de leur liberté de conscience. C'est ce que le féminisme américain appelle « empowerment ». C'est le droit à revendiquer son propre schéma d'émancipation et de dire, en substance, « Laissez-moi m'inscrire librement dans une démarche de soumission si je l'ai décidé ». Mais ma question c'est, est-ce que ce choix est réellement délibéré, sans insulter l'intelligence de ces courtisanes du passé, celles qui se déclarent libres, le sont-elles réellement? Est-ce une décision souveraine de leur conscience morale, ou sont-elles mystifiées par leur éducation, leur entourage, leur situation sociale, religieuse? Dans un article devenu célèbre intitulé « Quand céder n'est pas consentir », la sociologue Nicole-Claude Mathieu défend l'idée selon laquelle le prétendu consentement de nombreuses femmes à leur propre servitude était en fait une supercherie, puisque leur état de dominé leur interdisait précisément de voir qu'elles l'étaient. Selon elle, il serait donc plus juste de parler de collaboration plutôt que de consentement.
Les femmes sont-elles toutes manipulées? Je l'ignore. Ce serait faire injure à leur capacité de jugement que de le penser. Cela dépend pour chacune de son niveau d'éducation, de son âge, de ses opinions politiques et d'une foule d'autres facteurs qui lui sont propres. À commencer par le sens philosophique que l'on donne au mot « liberté ». Pour ma part, la galanterie ne fut qu'un moyen de parvenir à mes fins. Mais la galanterie n'est pas la prostitution, quoi qu'en dise le commun des hommes. Ces hommes ne voient dans la galanterie ou la prostitution que l'approbation des femmes à la soumission et une dénégation de leur amour-propre. Apprenez, messieurs, que l'amour-propre chez les femmes telles que moi tient lieu de toutes les qualités que la nature vous a favorisées sur nous.
Tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que l'homme de gauche pense de la prostitution?
La prostitution, à mon époque, est perçue comme une activité qui protège le corps social de toutes les déviances, en lui permettant une saine évacuation des vices. Elle est largement acceptée. Moi, je pense qu'il faudrait balayer les rues de Paris de ces filles publiques, les éloigner des jardins royaux et les tenir dans des quartiers où la police sera faite à l'insu des femmes honnêtes, des filles de marchands, qui sont tous les jours les spectatrices du débordement de ces viles créatures et de leurs affreuses situations.
C'est tout? Vous proposez qu'on les jette à l'extérieur de la ville sans autre forme de procès? Où est passée votre sensibilité à l'égard des opprimés? Ce sont des créatures non pas viles mais bien avilies. Vous imaginez bien que leur situation que vous trouvez déjà affreuse va simplement s'aggraver?
En fait, je pense que la société doit corriger plusieurs abus. Détruire entièrement l'excès du luxe, abolir un nombre infini de jeux publics et créer plutôt des amusements qui élèvent l'âme des Français et qui épurent leur courage. Je propose qu'on donne à la vertu des marques distinctives. Les femmes, quoique je sois intéressée dans la proposition, ne devraient-elles pas recevoir quelques marques d'encouragement quand le mérite et l'honneur élèvent leur sexe? Les femmes forment la moitié de la société et malheureusement leur peu d'émulation contribue aussi à la perte de l'autre moitié. Quelle que soit la réforme qu'on envisage, les Français ont besoin de dissipation et de jeu. Tous les peuples, et même les plus sauvages, ont tous cherché l'amusement. Mais les plus nobles et les plus épurés sont ceux qui ont duré le plus longtemps. Alors oui, je voudrais que les filles publiques soient placées dans des quartiers désignés afin de ne pas alimenter davantage ce commerce et protéger ces jeunes filles qui pourraient voir la prostitution comme un remède possible à leur triste sort. Mais j'en conviens, ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. Seulement, en restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette chaîne d'union fraternelle offrira d'abord le désordre, certes, mais par les suites, elle produira à la fin un ensemble parfait.
Je crois que vous parlez en substance de la place des femmes dans l'espace public. Favoriser l'émulation, donner à la vertu des femmes des marques distinctives, ce serait par exemple féminiser les noms de rue, les collèges et les bibliothèques. À mon époque, on a seulement 6% des rues qui mettent des femmes célèbres à l'honneur. C'est très peu, c'est trop peu. Vous, Olympe, on parle aussi depuis des années de vous faire entrer au Panthéon. Franchement, je ne saurais même pas vous dire pourquoi ce n'est toujours pas le cas.
Prenons les noms de rue, afin qu'on ne dise pas que je ne fais que mention de moi. Comprenez que la Révolution s'attaque à tous les symboles de l'injustice et de l'oppression. On déboulonne les statues qui font les figures du despotisme et on épure les noms des rues de toute leur religion. Mais bien sûr, on ne pense toujours pas aux femmes. Pourquoi? Eh bien, j'observe que les artères parisiennes sont nommées d'après les figures héroïques du temps. Ce sont les noms d'hommes politiques et de militaires que nous lisons le plus souvent. Et les femmes, puisqu'elles ne peuvent accéder ni aux fonctions politiques ni militaires, il n'est même pas question d'en établir la liste. Il faut plus de femmes fortes et fières pour opérer en France une grande et heureuse révolution. Tant qu'on ne fera rien pour élever l'âme des femmes, l'État ne peut prospérer. J'offre un moyen invincible pour élever l'âme des femmes. C'est de les joindre à tous les exercices de l'homme. Que l'on crée par exemple une garde nationale des femmes, que l'on autorise la prise de parole de ces dernières à l'Assemblée. Si l'on permet aux femmes de s'illustrer noblement, de pénétrer les cœurs et les esprits par leurs talents et leurs vertus, rien ne pourra satisfaire davantage à leur reconnaissance publique, au risque peut-être de voir les rues inondées des noms d'illustres femmes. Et si l'homme de votre époque s'obstine à trouver ce moyen impraticable, qu'il partage avec la femme, non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Il faut que le préjugé tombe, que les mœurs s'épurent et que la nature reprenne tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres et le gouvernement français ne saurait plus périr. Pour en revenir à votre question à propos des filles publiques, vous n'imaginez certainement pas, depuis que court la syphilis, nous devons vivre avec le spectacle continuel de ces pauvres filles que la police des mœurs emprisonne dans la salpêtrière ou déporte aux Amériques. Les hôpitaux et les asiles sont devenus des établissements de correction par le travail et la piété.
Ah oui, ce sont les fameuses rafles de prostituées. Je sais que sous l'influence du rationalisme des Lumières, la prostitution entre dans une phase de réglementarisme à votre époque. D'ailleurs, moins pour la morale que pour l'hygiène. La prostitution est tolérée, à condition toutefois que l'état de santé des filles soit dûment contrôlé, car la syphilis rôde. Ce sera donc la police sanitaire, mandatée par le pouvoir judiciaire, qui se chargera d'endiguer le péril vénérien. On ouvre des maisons de tolérance pour assurer un meilleur suivi médical de ces femmes.
Certes, de mal nécessaire, la sexualité vénale est devenue un mal médicalisé. Les filles soumises, qu'elles soient à numéro ou à la carte, sont enregistrées et régulièrement examinées. Mais ne confondez pas les maisons d'abattage et les maisons closes. Dans les premières, l'acte est immédiat. L'espace est minimal et les filles font moins l'objet d'un contrôle permanent. La clientèle y est moins prestigieuse, en somme. Mais dans les secondes, tout y est comme au théâtre. Les filles sont lavées et soignées. Et chaque maison reprend la notion de mise en scène et possède une dimension sensuelle qui lui est propre. Même ses couloirs et ses portes dérobées figurent en quelque sorte le cheminement de la tension sexuelle.
Vous pouvez parler des maisons closes parisiennes ? Vous les connaissez ou vous en avez visité ?
Ces messieurs des salons n'ont de cesse d'en parler. Aglaé, Daphné, Émilie, Victoire, Julie. Je pourrais vous citer les noms de toutes ces filles comme si je les connaissais ou que je les avais moi-même fréquentées. Les lieux de débauche se trouvent pour la plupart en périphérie, près des cours et des futurs boulevards. L'architecture jadis majestueuse de Paris s'est plaquée désormais à la licence des mœurs et des idées. Elle a prévu et satisfait toutes les intentions de la débauche et du libertinage. Les issues secrètes et les escaliers dérobés sont au ton des romans du jour. L'érotisme, la sensualité se complexifient jusqu'à atteindre, selon ces messieurs, un raffinement inégalé. Les maisons sont dirigées par des tenancières telles les dames Babé, la Gourdan, dite la petite comtesse, ou Justine Paris, qui rivalisent dans l'invention à l'attention des intellectuels et des aristocrates. Il n'y manque ni la piscine, ni la salle de déguisement, ni même le laboratoire et son choix de curiosité. Les chambres et les salons se spécialisent et portent tous un nom particulier, faisant souvent appel à la mythologie. Déesses, nymphes et dieux patronnent désormais les ébats. J'ai entendu dire que dans le salon de Vulcain, chez la Gourdan, dès qu'une femme s'assoit dans un étrange fauteuil, le dossier bascule en arrière et la victime se retrouve jambes attachées, prête à subir tous les outrages. La maison la plus connue et la mieux achalandée est celle de Dervieux, ancienne actrice de l'opéra et galante du prince de Conti, puis entre autres de Monsieur Lenoir, le lieutenant de police. C'est d'ailleurs grâce aux libéralités de ce dernier qu'elle put faire élever le splendide hôtel de la rue Chanterelle. On y offre des filles pour un souper ou pour une nuit, des verseuses qui font boire, des agenouillées ou des grandes horizontales. Les hôtels particuliers, les folies ou les petites maisons d'amour abritent alors des scènes plus ou moins scandaleuses.
Et la révolution qui s'immisce soi-disant partout et tient compte de toutes les vulnérabilités, elle change quelque chose au sort des prostituées ?
La révolution ne bouleverse pas la prostitution dans la capitale, non. Même si les Tuileries et les galeries du Palais Royal en deviennent le centre. Les filles y tiennent boutique à la façon des portières de quartiers réservés et signalent leur commerce par des gravures ou des étampes, libertines accrochées à leurs portes.
Les maisons closes ont aussi cet avantage de permettre la surveillance du client par la matrone, vérifier que les ébats se déroulent de manière honnête, entre un homme et une femme seuls, dans une chambre dont le verrouillage est interdit. Ni trop long, ni trop voluptueux, la lumière purifiante du pouvoir doit rendre aussi peu nocif que possible le soulagement d'un homme qu'il s'agit de rendre intact à sa famille, sans que la relation charnelle ait trop perverti son imagination, sans qu'elle se soit accompagnée de sentiments. Romantique, n'est-ce pas ? Et la dernière maison close fermera ses portes en France en 1946, sous l'impulsion de Marthe Richard, ancienne prostituée et élue parisienne, qui profite pour proposer l'interdiction de la mauvaise réputation des tenanciers, accusés de collaboration. Avec la loi Marthe Richard, la France adopte un régime abolitionniste qui ferme les maisons de tolérance et prévoit la création de services de prévention et de réadaptation sociale dans les plus grandes villes françaises. Bien sûr, de nombreux mouvements féministes s'y opposent, ainsi que le STRAS, le principal syndicat des travailleurs du sexe, et comme les budgets ne sont pas à la hauteur, les prostituées se retrouvent finalement dans les rues. Alors, faudrait-il rouvrir les maisons closes en France ? A priori, les principales intéressées, les prostituées, réclament la reconnaissance de leur statut, l'accès à la sécurité sociale, la fin de la répression policière, mais elles sont généralement contre la réouverture des maisons closes, parce qu'elles sont simplement contre le salariat. En vérité, la question de la prostitution est une de celles qui divise le plus les différentes stratégies féministes de mon époque. Pour certaines, tout essai de réglementation de la prostitution est d'abord une consécration, immoralement légale, de leur avilissement. La prostitution est avant tout un crime de l'homme et des sociétés, et même si on imaginait une femme réellement volontaire, complice, vicieuse, paresseuse ou cupide, cette femme resterait toujours une victime de la prostitution, et l'immense majorité des prostituées sont effectivement des victimes. Pour d'autres, la prostitution n'est pas forcément une aberration. Ce pourrait même être un travail noble s'il n'était pas aussi connoté et ses travailleuses stigmatisées, méprisées, ostracisées. On va changer de sujet et en venir à votre vie en tant que femme de lettres, mais avant ça, comment comprenez-vous ce paradoxe que la prostitution est considérée à la fois comme un mal nécessaire mais repoussant, son commerce est permis mais la femme avec laquelle il se commet est honteuse et ne mérite pas le respect, le besoin d'évacuer sa semence est sain et légitime, mais celle qui se charge de la recueillir n'est pas traitée comme une personne? On pourrait même la violenter, en fait, parce qu'elle n'est pas une femme comme il faut.
Je me demande si l'homme est capable d'être juste. Qui lui a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Sa force ? Ses talents ? Observez le Créateur dans sa sagesse. Parcourez la nature dans toute sa grandeur. Et donnez-moi, si vous le pouvez, d'autres exemples de cet empire tyrannique dans la nature. Remontons aux animaux, consultons les éléments, étudions les végétaux, jetons enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Cherchons, fouillons et distinguons les sexes dans l'administration de la nature. Partout, nous les trouverons confondus. Partout, ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. Mais l'homme, lui, a fait de la femme le jouet du mépris. Seul, il s'est fagoté un principe de cette exception de la nature. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu pourtant toutes les facultés intellectuelles. Désormais, il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour finalement ne rien dire de plus. Il ne respecte pas même sa compagne. Comment voulez-vous qu'il donne de la valeur à celle qu'il considère comme la plus indécente? La vraie question est plutôt, ne sera-t-il donc jamais permis aux femmes d'échapper aux horreurs de l'indigence que par des moyens vils? Une femme n'a besoin que d'être belle ou aimable. Quand elle possède ces deux avantages, elle voit 100 fortunes à ses pieds. Si elle n'en profite pas, elle a un caractère bizarre ou une philosophie peu commune qui la porte au mépris des richesses. Alors elle n'est plus considérée que comme une mauvaise tête. Mais la plus indécente, elle, parvient à se faire respecter avec de l'or. Voilà ce qui l'importune. Le commerce des femmes est une espèce d'industrie reçue dans la première classe qui désormais ne doit plus avoir de crédit. On conçoit aisément que celle qui est née d'une famille riche gagne beaucoup avec l'égalité des partages. Mais celle qui est née d'une famille pauvre, avec du mérite et des vertus, quel est son lot? La pauvreté est l'opprobre. Si elle n'excelle pas précisément en musique ou en peinture, elle ne peut être admise à aucune fonction publique, quand elle en aurait toute la capacité. Mais la raison? La raison peut-elle se dissimuler que la galanterie ou bien la prostitution? Tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l'homme achète, comme l'esclave sur les côtes d'Afrique. La différence est grande, on le sait. L'esclave commande au maître. Mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l'esclave a perdu tous ses charmes, que devient cet infortuné? Le jouet du mépris. Les portes même de la bienfaisance lui sont fermées. Elle est pauvre et vieille, dit-on. Pourquoi n'a-t-elle pas su faire fortune? Une jeune personne sans expérience, séduite par un homme qu'elle aime, abandonnera ses parents pour le suivre. L'ingrat la laissera après quelques années, et plus elle aura vieilli avec lui, plus son inconstance sera inhumaine. Si elle a des enfants, il l'abandonnera de même. S'il est riche, il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Si quelque engagement le lie à ses devoirs, il en violera la puissance en espérant tout des lois. S'il est marié, tout autre engagement perd ses droits. Quelle loi reste-t-il donc à faire pour extirper le vice jusque dans la racine? Ce pourrait être celle d'un partage égal des fortunes entre les hommes et les femmes. Ce pourrait être encore des lois sur l'héritage ou l'administration publique.
Alors Olympe, vous êtes courtisane, mère célibataire, vous ne savez ni lire ni écrire, vous avez un accent, à Paris il faut reconnaître que ce peut être un désavantage, et vous devenez femme de lettres. Quel accomplissement! Vous vous êtes fait une place parmi les cercles intellectuels parisiens, vous avez une production de pièces de théâtre assez immense, vous avez écrit je crois plus d'une centaine de pièces. C'est un aboutissement pour vous? Est-ce qu'on vous juge enfin d'après vos capacités intellectuelles?
À 40 ans, les avertissements du miroir me jetèrent naturellement au Satan de la littérature. Et oui, je suis très productive en écriture. Moi qui à peine sais épeler le français, il me faut 4 heures pour rédiger un acte et 24 heures seulement pour une grande pièce. Presque toutes mes pièces ont été simplement dictées, affiches, pièces, préfaces, billets, mais cela n'enlève rien de mon génie. Certains jours, l'activité de 10 secrétaires ne suffirait pas à la fécondité de mon imagination. Oh bien sûr, beaucoup de mes pièces sont loin d'être bonnes, mais j'en ai 10 au moins qui ne sont pas dépourvues de sens commun. J'aime la comédie. Je trouve que c'est l'école du monde. Mais bien sûr, on me conteste la paternité de mes ouvrages. On prétend que je fais appel à des teinturiers pour m'aider à l'écriture. La comédie française ne me jouera d'ailleurs qu'une fois. Et si elle pouvait encore s'en dispenser, elle commettrait une seconde injustice aussi révoltante que la première.
Vous avez dit que vous ne cherchez pas à séduire vos juges, vous cherchez à les convaincre, à être reconnu pour vos capacités intellectuelles. Dans le milieu culturel, le cinéma, le théâtre, l'audiovisuel, j'ai l'impression que les jeunes comédiennes notamment sont très exposées à ces hommes producteurs, réalisateurs, qui se cachent derrière une fausse sensibilité artistique pour justifier de leur promiscuité, leur familiarité, des comportements déplacés, du harcèlement sexuel, et ainsi de suite jusqu'au viol. J'en veux pour exemple le procès d'Harvey Weinstein, producteur, ancien mania d'Hollywood, qui a rendu visible malgré lui un profond déséquilibre qui illustre bien le fonctionnement viriliste de la société. Ces hommes éprouvent un sentiment de pouvoir, de toute puissance, d'impunité, comme si tout leur était dû ou bien permis. Il est poursuivi aujourd'hui par 45 femmes au total, accusées de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Et a priori, il devrait être condamné à 23 ans de prison, ce qui n'est pas loin de la peine maximale encourue selon de nombreux médias, mais ce qui n'est pas la peine maximale selon moi. Je vous passe les arrangements financiers qui sont en cours de négociation avec les victimes, mais qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il est vrai que les femmes, surtout depuis un siècle, ont cherché à devenir des émules dans les arts. Non seulement des comédiens de Paris, mais encore des directeurs de province et des gens de lettres. Tous armés par le despotisme et par les privilèges exclusifs contre les propriétés des auteurs dramatiques. Ces hommes voient les jeunes arrivantes avec plaisir entrer en lice. Loin de rebuter ce sexe timide, ils les encouragent, disons, à leur façon. Parfois, ils les élèvent même au-dessus de leurs mérites pour les flatter et s'attirer leur sympathie. Sous prétexte de bienveillance, ils se permettent de déroger au principe de bienséance et tout au long de leur carrière, ils ne pourront céder de s'intéresser à leur gloire.
Rien de nouveau sous le soleil, donc. Il y a quelque chose de vraiment malsain dans le fait de ne jamais être sûr pour une femme d'être jugée uniquement d'après ses capacités. Intéressement, désirabilité, jalousie, il y a trop souvent des facteurs extérieurs qui viennent contrecarrer l'objectivité attendue. D'après vous, comment on lutte contre ce sexisme ordinaire ?
Dans mon milieu, il y a aussi que les pièces que les femmes donnent au théâtre sont jugées avec une rigueur excessive. Pourtant, tout m'indique que je suis au-dessus de la médiocrité. Il vous suffira d'apprendre que jamais auteur n'a été maltraité comme je l'ai été depuis 8 ans par la Comédie française. Et vous n'ignorez pas à quels excès elle s'est portée souvent. Elle a trouvé plus méritoire encore de tourmenter d'une manière extraordinaire un être faible et timide comme moi. Une femme, enfin. En 1792, alors que messieurs de la Comédie avaient décidé que ma pièce « L'esclavage des Noirs » ne serait pas reprise, il se forme un comité de tous les gens de lettres pour s'occuper spécialement des réclamations qu'ils ont à faire des comédiens et des directeurs de province. Je leur adressais une lettre pour leur fournir de nouveaux faits et améliorer par ce moyen la cause qu'ils avaient entrepris à défendre. J'attendis. Point de réponse. J'exige alors une audience avec monsieur le maire, devenu pour moi comme la divinité muette et invisible. Ah ! Et quelle audience ! Monsieur le maire prévenu, trompé, me fait quelques menaces qui se ressentent malheureusement pour lui plus d'un ministre despote que d'un maire de Paris. Il m'a déclaré impérativement que la Comédie ne pouvait ni ne voulait jouer mon drame, qu'elle l'entendait ainsi. D'ailleurs, les Américains qui avaient des loges à la Comédie française l'avaient menacé de les rendre si l'on représentait encore ce drame incendiaire et qu'elle ne voulait pas perdre son pain pour moi. Un semblable discours m'a anéanti. Quelle injustice ! Mais dites-moi donc, quels sont mes crimes, mes forfaits, mes torts pour mériter tant d'infamie ? Mais, Madame de Gouges, calmez-vous enfin ! Je vous connais bien. Quand vous serez calmée, vous penserez différemment. Vous verrez. Ah ! Éternellement, répondis-je. Monsieur, j'ai écouté vos sots discours avec le calme d'un philosophe, avec le courage d'un brave homme et avec un œil observateur. Je suis cette même Madame de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. On trouve si communément des hommes de votre espèce, mais apprenez qu'il faut des siècles pour produire des femmes comme moi. »
Dans un dialogue avec Tiano, elle m'a dit à propos des femmes qui pourraient subir des remarques déplacées de certains hommes.
« Ne fais rien en te forçant et ne sois affligée en rien. Continue ton chemin. Si on te jalouse ou on te dénigre, sois tout simplement sourde et souris. Chaque propos malséant salit ta bouche et l'oreille d'autrui. »
Prendre de la hauteur en somme. Vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je trouve qu'il m'est indispensable de confondre publiquement l'assertion. Il est temps de confondre l'imposture. Il est temps, enfin, que mon ignorance me serve même de bouclier contre ces coups qu'on voudrait porter à ma réputation. La place de mère ne m'en impose, quoiqu'il m'ait menacé de tout son pouvoir. Ah, si j'avais été un homme ce soir-là, j'aurais jeté le gant du défi et il y aurait eu du sang de répondu. Ah, que d'oreilles j'aurais coupé! Il ne m'aurait fallu qu'une épée, et j'aurais bientôt été une autre chevalière d'Éon. Jusqu'en ce moment, j'avais cru que le mérite, la modestie et l'intégrité étaient le prix de la première place du monde. Mais j'ai appris qu'il ne faut jamais faire l'éloge d'un homme qu'après l'avoir observé dans toutes les circonstances de sa vie. Ce n'est pas la contestation par elle-même qui m'affecte le plus. C'est le comble de l'injustice, de la calomnie et de la noirceur qui m'accable. Je me vois partout prévenue, déçue et dénigrée par de lâches et vils calomniateurs. Je suis menacée d'échouer encore aux communes de Paris, car je compte bien aller jusque-là. Je vais m'y adresser avec plus de confiance cette fois-ci. Je suis persuadée que 300 citoyens, attentifs à veiller toujours pour que l'opprimé cesse d'être persécuté et que l'innocent soit enfin justifié, seront moins susceptibles d'être trompés ou d'être induits en erreur qu'un seul magistrat.
Ce que je comprends, c'est qu'il ne faut jamais laisser passer aucune injustice. Prendre l'exemple sur vous, ce serait même faire une affaire d'État du moindre manquement à cet équilibre entre les sexes. Je suis complètement d'accord. Mais le problème à mon époque, si j'en reviens à notre sujet, c'est que les plaintes contre harcèlement ou contre les violences sexuelles aboutissent très rarement. Sur 1000 à 1200 plaintes déposées chaque année en France, le taux de condamnation ne concerne qu'une cinquantaine de personnes tout au plus. 93% des plaintes sont simplement classées sans suite. Et en milieu professionnel, une femme sur cinq déclare avoir subi une situation de harcèlement sexuel dans son parcours, mais seulement 5% des cas sont portés devant la justice. Les moyens de pression sont trop puissants dans le cadre d'une entreprise et poussent de nombreux employés au silence. Pourtant, la loi dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou les avoir relatés. Mais les victimes n'osent pas parler parce qu'elles ont tout à perdre si elles n'arrivent pas à prouver les faits. Prouver les faits. Pas évident de prouver le harcèlement d'hommes habiles habitués à l'usage. Ce sont des manipulations insidieuses, des traitements différenciés, un clin d'œil, des tentatives déguisées chaque jour un peu plus. Tenez, dans le milieu du cinéma, pour prouver le harcèlement, il faudrait toujours parler du fonctionnement endogamique, la précarité des statuts, la forte imbrication des sphères personnelles et professionnelles, la grande asymétrie des pouvoirs, la passion des métiers, ce sentiment d'immunité artistique, la familiarité des rapports sociaux, l'isolement et en même temps la promiscuité, notamment sur les lieux de tournage. C'est comme si la justice disait que le coupable est présumé innocent, mais la victime, elle, doit d'abord faire la preuve de sa non-culpabilité. On appelle ça le victim blaming.
Je vous écoute et permettez-moi alors, après tant d'injustices, de faire quelques réflexions sur les hommes qui jugent les hommes, de leur rappeler leur serment de fraternité et de ne point épargner l'homme en place qui s'oublierait dans son devoir. Le ministère, le gouvernement, n'aurait-il changé de face que pour seconder l'intrigue, servir l'imposture, accabler les citoyens sans défense et nous forcer à regretter nos premiers fers? Je crois qu'il n'y a qu'un exemple sévère comme celui de ce Weinstein qui rendra les magistrats inébranlables. Il faut les casser dans leurs fonctions. Lorsque leurs torts seront publiquement reconnus, et avec ce traitement, on assurera à jamais à l'opprimé et à l'innocent des juges incorruptibles. Passez-leur une erreur aujourd'hui et demain, vous leur faites grâce d'une nouvelle et vous vous accoutumerez insensiblement à devenir les créatures de ces tyrans. C'est ainsi que le despotisme est né. C'est ainsi qu'il s'est consolidé tous les jours avant la Révolution.
En fait, on parle du milieu du cinéma, de l'audiovisuel et des jeux vidéo en particulier, mais il faut noter que le Centre national du cinéma est la première administration publique à prendre ce sujet très au sérieux. Depuis le 1er janvier 2021, elle propose des formations de sensibilisation à la question du sexisme en milieu professionnel. formation qui est assurée par l'AVFT. Et l'innovation, qui fait que c'est particulièrement pertinent à mon sens, c'est que les intervenantes sont des salariés de ce domaine d'activité, et elles peuvent donc parler des situations les plus concrètes, qui peuvent même paraître insignifiantes parfois, mais elles ne sont pas anodines justement. C'est pour vous dire, Olympe de Gouges, parce que je commence à vous connaître, que tout ne se résout pas que par le droit. Le droit doit avancer, certes, mais il y a aussi le champ des idées, l'opinion commune, les croyances populaires, les habitudes qui sont tenaces. Et puisqu'on est sur le terrain de la pensée, le chercheur Romain Carnac, dans un article très engagé, évoque même une nécessité stratégique pour les femmes de regagner sur le terrain de l'éthique l'influence perdue sur le terrain politique. Et d'ailleurs, pour que le droit avance véritablement, il faut que le débat soit cristallisé à un moment donné, qu'on en parle, que les médias s'emparent du sujet à un point tel que la nécessité d'appliquer la loi s'impose catégoriquement. Le 15 octobre 2017, le féminisme universel à l'œuvre. Après la publication des enquêtes accusant Weinstein, après la création des hashtags Be Brave, My Harvey Weinstein et Balance ton porc, l'actrice américaine Alyssa Milano propose le hashtag MeToo, créé par Tarana Burke 10 ans plus tôt en 2007. Il encourage les femmes notamment à partager leurs témoignages de violences sexuelles dans différents milieux professionnels. Alors souvent, on a vu des publications décrivant des situations injustes, anormales, avec le nom du responsable bien en évidence. Vous auriez participé, vous? Vous auriez nommé quelqu'un?
Mais les publications, lorsqu'elles nomment quelqu'un, ce doit être non pour le dénoncer à l'indignation publique, mais pour le forcer à reconnaître son imposture et son erreur. Je suis contre la dénonciation publique parce qu'elle préfigure de la violence. J'observe, à l'heure de la Révolution, que les symboles qu'on attaque, toutes ces accusations que l'on croit limitées au champ des idées et des discussions, finissent par déchaîner les haines et les passions dans le réel. Lorsqu'on s'attaque à la statue de Louis XVI, c'est un symbole que nous persécutons. Mais quelle suite funeste ne donne-t-elle pas dans ces temps de troubles? Alors ces violences sexuelles... Vous savez, une femme sacrifiée à cette nouvelle tyrannie, ne demande à cet égard aucune réparation pour elle-même. Elle désire seulement être la dernière victime, et que ses aveux puissent ouvrir les yeux aux magistrats qui ont immolé le droit de la cause à l'injuste intérêt des comédiens ou des producteurs. Je pense que l'émancipation est affaire politique et son terrain est juridique. La réponse se trouve dans la loi.
Alors Olympe, MeToo ou pas MeToo? Je reviens sur ce que j'ai dit, le but c'est pas forcément de nommer quelqu'un. J'entends bien ce que vous dites, mais ce hashtag... Je pense qu'il faut y voir un élan d'union et de solidarité de toutes les femmes du monde. Attendez, même au Koweït récemment, des femmes ont défié le conservatisme de la société et la culture de la honte pour dénoncer le harcèlement sexuel sous le hashtag Lanasket, qui signifie « pas de silence, je ne me tairai pas ». Et pour tout vous dire, depuis MeToo, il est devenu assez palpable que le débat a progressé, la parole s'est libérée et tout le monde a bien conscience de ce qu'est un harcèlement aujourd'hui. Et les grandes entreprises se font même un point d'honneur de lutter contre. La loi progresse d'une certaine manière, puisque nul ne l'ignore désormais. Enfin bon, vous n'êtes pas obligé de choisir.
Si, si, bien sûr. MeToo. Avec des réserves. Vous savez, je vois bien comment mon sexe est malheureux, et qu'il court à un danger évident. Mais par bonheur, cette guerre n'est pas meurtrière. Moi, ce n'est que par la plume que je puis me venger. Mais hélas! Quelle vengeance! Elle me coûte le plus bel appât de ma vie.
Moi, je pense que cette guerre des sexes est meurtrière, justement. Même littéralement, je veux dire. Quand elle ne tue pas, elle meurtrit. Le féminisme, c'est bien un courant philosophique. Les féminismes sont autant de mouvements de pensée qui en découlent. Et le féminisme, celui du jour le jour, c'est une lutte pour la survie. En fait... J'ai voulu, au cours de notre échange, vous montrer combien le féminisme a évolué depuis votre époque. Pro-sexe, féminisme pop, décolonial, intersectionnel, il y a aussi l'universel, le biologique, l'écoféminisme, et même des féminismes de droite ou d'extrême droite. Autant de stratégies, de branches, de mouvements, qui convergent vers une même cause, la fin de l'oppression. Je vous demande pas d'adhérer à l'un ou l'autre, j'ai même pas eu le temps de tous vous les exposer, il nous faudrait 3 heures, mais... Peut-être que, selon votre sensibilité, je sais pas, vous vous ressentez plutôt d'une certaine mouvance. Si vous deviez définir votre féminisme, vous, Olam de Gouge, qu'est-ce que ce serait ?
Moi, je me réclame d'un féminisme absolu. Mon indignation ne souffre pas de réserve. Je ne demande pas des droits pour la femme, mais la totalité du droit pour l'universalité des femmes. Moi, je construis sur les droits humains et non celui d'un sexe. J'aspire à une justice totale et universelle. Pour moi, la justice ne se scinde pas. Elle est pour l'humanité entière. C'est dans cette unité vivante, sous l'apparente dualité sexuelle, comme dans la variété des races et la diversité merveilleuse et sans cesse renouvelée des individus, qu'il faut la vouloir. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, je voudrais qu'elles soient constituées en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. C'est ainsi que j'ai résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés. Afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits de la femme et de la citoyenne.
Bien, Olympe, on va se quitter là-dessus. C'était un plaisir. Merci pour vos conseils et à bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. La séduction, la féminité, la prostitution, l'injustice, favoriser l'émulation. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce dialogue ? Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. N'oubliez pas de mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles. Commenter et partager, c'est ce qui m'aide le plus à continuer et gagner en visibilité. Vous pouvez aussi m'aider à rémunérer les comédiens et les comédiennes en participant au chapeau sur Tipeee. Quant à moi, je continue mon tour d'horizon de l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.